Stadium Ligue 1, le podcast sur l'actualité du championnat de France de football.
Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue sur Stadium Ligue 1, le podcast qui parle du meilleur championnat d'Europe, du monde et de la galaxie. Alors aujourd'hui, c'est un épisode un peu spécial, c'est le premier épisode du Chant des supporters. Le Chant des supporters, c'est quoi ? C'est une émission qu'on va avoir pendant les trêves internationales où on va donner la voix aux supporters d'un club pour qu'il nous raconte un peu son histoire, sa relation qu'il a avec le club, et on va revenir sur certains événements aussi de son club. Aujourd'hui, on va commencer avec le RC Lens. Le RC Lens, c'est quoi ? C'est un club qui a été créé en 1905 par un groupe d'étudiants. À partir de 1906, il a compté son premier conseil d'administration et a eu son nom officiel, donc Racing Club Lensois. Donc le club joue d'abord en vert et noir, hein. D'ailleurs c'est assez drôle puisque j'ai pu comprendre la référence aujourd'hui à ce vert et noir, hein, qui est une référence à la fois à la place verte, là où les premiers étudiants jouaient, et le noir pour représenter l'omniprésence des mines de charbon dans les environs. Ensuite, ça va évoluer avec du sang et or, toujours, hein, qui est lié à ces mines de charbon, hein, l'or qui est parti, que les mineurs vont chercher dans ces mines, et le sang, hein, c'est tout ce travail de ces mineurs pour ce dur labeur. Lens commence vraiment à devenir sérieux à partir de 1926, où le footballeur britannique Keane Fenton est la première star du football a évolué sous les couleurs lensoises, hein. Il va rester pendant 8 ans. Ensuite, on a l'arrivée de Bollaert qui va donner un nouvel élan et aussi qui va donner le nom au stade dans lequel le RC Lens évolue aujourd'hui. Finalement, le club est sauvé dans les années 1960, hein, quand les mineurs arrêtent de soutenir le club par le maire actuel. Et enfin, voilà, on va connaître le nouveau RC Lens à partir de 1988 avec Gervais Martel. Aujourd'hui, c'est Corentin qui m'accompagne pour parler du RC Lens, supporter de ce beau club. Corentin, comment tu vas ?
Hello Desti, et bonjour à tous les auditeurs de Stadium Ligue 1, et merci pour cette super introduction, Dest.
J'ai fait de mon mieux, j'espère que j'ai pas dit de bêtises.
Non, très bien.
Nickel. Alors, on va commencer simplement. Moi, j'ai envie de savoir comment ton histoire avec le RC Lens, il a commencé.
Eh bien, je pense comme beaucoup de supporters, Desti, elle a commencé très simplement à travers le milieu familial. Donc moi j'ai 29 ans aujourd'hui et ça fait à peu près 25 ans que je vais au stade. Pour t'expliquer un petit peu, hein, la géographie du Nord, tu as Lille qui représente le Nord entre guillemets de manière géographique et Lens qui représente le Pas-de-Calais. Moi j'avais les deux dans ma famille, donc du côté de ma maman des supporters du LOSC et du côté de mon papa des supporters du RC Lens. Et bah voilà, je suis tombé amoureux du RC Lens à travers mes expériences au stade où je suis allé depuis tout petit avec mon papa, mon grand frère, mes cousins, mes oncles qui ont toujours été abonnés. Et donc voilà, l'histoire d'amour a commencé comme ça.
Ça devait être sympa les repas de famille quand vous étiez tous réunis là, du côté du père et de la mère.
Il y avait des morceaux de poulet ou de frites le dimanche midi qui sautaient à travers la table les jours de derby.
Ok. Si aujourd'hui tu devais me parler du club dans la ville, comment tu me le décrirais ? Puisque j'ai l'impression que Lens est quand même un club qui compte beaucoup dans la ville. On le voit dans certaines équipes, hein, comme je sais pas l'Olympique de Marseille ou des choses comme ça, où bah les jours de match c'est différent. Est-ce que tu me confirmes ça ou est-ce que j'en rajoute un peu ?
Non, c'est tout à fait vrai. C'est même, je pense, encore plus vrai que dans une grande ville comme Marseille. Si je devais comparer à une ville, j'aurais plutôt tendance à comparer à un club comme Saint-Étienne. Mmh. Il faut savoir qu'à Lens, tout d'abord, c'est une ville tout petite, hein. Je pense qu'il y a environ 30 000 habitants à Lens. C'est une ville très populaire, avec un niveau de populaire très important. Dans le Pas-de-Calais, c'est vrai que le club et le RC Lens a une place prépondérante dans la vie des supporters. C'est vraiment ce qui rythme la vie de beaucoup de supporters. Et effectivement, on le ressent énormément les jours de match ou les semaines importantes de championnat. Et on voilà, c'est, tu as les couleurs de la ville qui se transforment en rouge et jaune tous les week-ends. Et c'est vrai que dans la place des pardon, dans le cœur des supporters, ça a une place très très importante le club.
Ok. Bah, j'aimerais aussi revenir, voilà, t'en parlais un peu au début de ton introduction, que cette rivalité avec Lille, j'ai compris que c'était un peu le peuple contre les bourgeois. Est-ce que tu peux m'en parler un peu plus de cette rivalité? Est-ce que demain, enfin voilà, c'est quelque chose, demain si tu dînes en face d'un Lillois, t'annules le dîner et tu te casses, quoi.
Ouais, non, je vais pas aller juste, enfin, en tout cas, pour ma part, je vais pas aller jusque-là, hein. Comme je t'ai dit, j'ai de la famille qui est aussi de l'autre côté, donc bon, c'est une rivalité, en tout cas, pour ma part, plutôt bon enfant, qui l'est encore plus, je pense, de manière globale, depuis qu'on a passé un long moment en Ligue 2, et où la rivalité s'est un petit peu estompée de par le décalage de division entre les deux clubs. Mais en termes de rivalité, ouais, c'est effectivement le club populaire contre le club un petit peu bourgeois. Pour reprendre mon parallèle, c'est un petit peu le même, dans le même, la même dynamique que Saint-Étienne avec Lyon. Bien que je pense que ce soit un peu plus virulent de leur côté. Mais effectivement, tu as cette scission entre le côté club populaire lensois, qui, je pense, est le club le plus supporté de la région. De par ce côté populaire qui donne envie de supporter, etc. Et les Lillois qui sont un peu plus, oui, si on caricature, considérés comme un petit peu les bourgeois de la région et un club où il y a moins ce côté populaire, moins le côté supporter, l'ambiance énorme du stade, etc., quoi.
Ok. Moi, il y a un aspect aussi sur lequel j'aimerais revenir avec Lens, c'est que Lens bénéficie d'une sympathie en France quand même, peu égalée. Il y a peu de clubs aujourd'hui où enfin, on ne peut pas dire j'aime pas ce club-là. J'ai l'impression que tout le monde aime Lens, comme tout le monde peut aimer Auxerre, ou voilà, c'est vraiment des clubs sympathiques. Comment tu justifies cette sympathie qu'ont les gens pour ce RC Lens?
C'est vrai qu'on bénéficie d'une forte sympathie. Je pense qu'elle se réduit un petit peu aussi à travers les bonnes performances qu'on a depuis quelques temps. Mais effectivement, je pense que Lens, c'est un club qui est apprécié en France. Je pense que c'est un petit peu les mêmes raisons pour lesquelles Lens est considéré peut-être comme le club le plus populaire de la région. C'est son côté effectivement populaire. Le côté supporter qui supporte quoi qu'il arrive leur équipe, tu vois, on a une chanson dans ce style hein, qui est dans le malheur ou la joie. Donc voilà, le fait qu'on ait un club avec une ambiance parmi les meilleures de France, le fait qu'on propose aussi depuis récemment plutôt du beau jeu, et puis aussi je pense qu'il y a pas mal de symboles. Voilà, je te l'ai dit, le côté populaire du club qui peut pousser à l'attachement, et puis aussi tu vois, on a un petit peu des symboles. Je vais en prendre un qui peut un peu matérialiser ça, c'est les corons, tu vois. J'ai l'impression que dans les chants de supporters, c'est un des chants en France que les gens aiment bien voir, tu vois. Quand on voit un match à la télé, à Amazon, sur Canal, les chaînes ont tendance à couper les micros et laisser le stade déployer leur chanson. Donc c'est tout un tas de petits, je pense, facteurs qui fait qu'on attire la sympathie. Et puis je pense qu'aussi en termes de performance, hein, en étant, même si je suis très fier de mon club, on a une histoire où on a joué quelques fois les places majeures de Ligue 1. On a été champion en 1998, on a été deuxième l'an passé. Mais globalement, on s'est toujours un petit peu situé voilà, dans le haut de classement, mais sans être au top. Et du coup, je pense qu'on attire aussi moins la haine ou la, comment dire, les critiques des clubs rivaux, comme ont pu le connaître Lyon dans les années 2000, ou que Paris peut connaître aujourd'hui en accumulant les trophées, quoi.
Alors, c'est bien que tu parles justement de ce titre de 98, puisqu'on va déjà parler de l'un des présidents les plus emblématiques du RC Lens, hein, dis-moi si je me trompe, mais Gervais Martel. Je pense que c'est quelqu'un qui a beaucoup marqué le club. Récemment, il y a eu des déclats de Gervais Martel qui ont été, pour le coup, assez marquantes. En tout cas, moi qui m'ont un peu marqué, où voilà, il parle de sa relation avec le club, hein, parce qu'il sort un livre actuellement, donc il parle de sa relation avec le club, et à un moment, il le dit, le RC Lens, c'est ma famille, j'ai nourri ma famille, en fait, quand je me suis retrouvé sans rien, ce sont des gens qui avaient de la compassion pour moi, plus que moi, c'était touchant. Est-ce que tu peux me parler, toi, de voilà, ce que Gervais Martel représente pour toi et pour le club?
Oui, bah, Monsieur Gervais Martel, c'est effectivement notre président le plus emblématique. C'est le président qui a repris le club à la fin des années 80 pour nous emmener tout en haut en 98 avec ce titre. Bah, Gervais Martel, bon, il y a eu des hauts et des bas, hein, parce que je pense qu'aussi qu'on va, je pense, pouvoir en reparler lors de nos descentes. Je pense qu'il y a eu des choix un petit peu. Des mauvais choix qu'il a fait, il n'a pas toujours dirigé le club comme il l'aurait dû. Mais je pense qu'avec du recul, c'était quelqu'un qui dirigeait un petit peu. Bah, tu vois, cette déclaration, pour moi, elle fait écho à l'impression que j'ai de lui. Tu vois, c'était une figure un peu paternaliste qui a beaucoup dirigé le club par ses émotions, par ses sentiments, plus comme un chef d'entreprise. Et puis voilà, on peut lui reprocher notre descente et les mauvais choix qu'il a fait. Mais aujourd'hui, on ne peut pas renier qu'il s'est donné pour le club. Il a hypothéqué ses entreprises, ses maisons pour pouvoir tenir à flot le RC Lens durant les années compliquées. Et aujourd'hui, il tient toujours une place très importante au sein du RC Lens. On le voit régulièrement auprès du nouveau président Joseph Gourléan. Et il garde toujours cette place dans le cœur des supporters.
Tu l'as cité, tu as eu ce pic au RC Lens, ce premier titre de champion de France 98. Alors, je me suis replongé un peu sur cette saison. En début de saison, rien ne destinait Lens à être champion. On le voit à la mi-saison, Lens, ils sont sixième à 6 points de Metz. Tu as quand même des belles équipes à l'époque. Tu avais déjà Metz et Monaco hein, qui étaient les favoris. Finalement, après une deuxième partie de saison, on va dire un peu folle du RC Lens, ils arrivent à décrocher le titre. Ils font match nul sur le dernier match et ça se joue à la différence de but. À ce
Ouais.
moment-là, t'as quoi? T'as 7 ans, 8 ans, quelque chose comme ça? Non.
Non, moi j'étais plus jeune, j'avais 4 ans.
T'avais 4 ans. Donc, c'est ta
Ouais.
première année au stade.
Ouais,
C'est tes premiers pas au stade.
c'est mes premiers pas au stade. Je t'avoue que mes souvenirs sont assez flous, hein. J'étais très jeune sur cette période, mais je me souviens très
J'imagine.
bien du jour du titre, de regarder le match chez un de mes oncles qui avait le boîtier. Et on aura l'occasion d'en reparler, mais c'est des émotions dont on m'a beaucoup parlé, notamment l'année dernière, quand on avait eu une petite option sur le championnat. Ce fameux championnat où voilà, le parallèle est un peu le même à celui de l'an passé, où rien ne nous destinait à devenir champion, où ça s'est un petit peu construit au fil de l'eau. Et la délivrance, c'était à Auxerre, il me semble, le but de cette de l'égalisation qui nous permet de gratter le titre face au FC Metz, effectivement, avec, je crois qu'on fait 68 points, on est à égalité avec eux, et ça se joue voilà sur ce but. Donc ouais, c'est un des événements dont on entend plus parler quand on va au stade ou quand on passe, enfin quand on prépare le stade dans les bars, etc. quoi, à Lens.
Ah, parce que au final l'équipe était quand même assez sympa, je me suis replongé dedans. Alors c'est sympa puisque voilà, ça permet de se remémorer des anciens noms du foot français comme Varmuz, Pierre Fanfan, Dehu hein, qui est passé au PSG derrière, Jean-Guy Wallem, Sikora, Marc Vivien Fouet, paix à son âme. On avait qui encore? Il y avait Smisser, Tony Vérel.
Tony
Tony
Vérel,
Vérel, ouais.
Tony Goll.
Tony Goll ou encore Wagnon Eloy. Enfin, à l'époque, c'était quand même, enfin, c'était pas des, on va dire, les premiers de cordée, mais pourtant, au final, c'était une équipe qui était plutôt soudée, qui a réussi à créer la surprise, parce que en plus d'être champion, ils font demi-finale de Coupe de la Ligue et ils perdent en Coupe de France en finale contre le PSG. Donc, ça aurait vraiment pu être une année. Magique. Et puis après 98, la France est championne du monde. Enfin, si tes supporters lensois et français, c'est une année en or.
Ouais, c'est clair, c'est l'été de tous les bonheurs pour le supporter lensois. Oui, effectivement, on a quelques joueurs qui ont fait des petits parcours internationaux, mais on n'avait pas non plus des tueurs à gages. Hein. Quand tu vois un petit peu la suite des carrières des joueurs, comme Tony Vairelles qui est parti à Lyon et où ça n'avait pas forcément marché, Frédéric Déhu, ses différents passages dans les différents clubs français, voilà, avec des hauts et des bas. On avait des joueurs, je pense, un peu des très bons joueurs de Ligue 1, mais pas de niveau international. Mais voilà, ce qui a fait la réussite de cette équipe et qui fait partie, je pense, de l'ADN de ce club, c'est voilà, c'est cette ambiance familiale, le fait de travailler pour les autres et voilà, d'avoir des joueurs très travailleurs sur le terrain qui se sont toujours donnés au max et qui a été récompensé un petit peu par cette année exceptionnelle avec Daniel Leclerc en coach, le druide qui pilotait tout ça, quoi.
Ensuite, bah, t'as Lens en Europe. Et Lens en Europe, finalement, c'est pas si dégueu que ça. Hein. Alors, forcément, il y a cette victoire à Arsenal de 1-0 dont on a reparlé parce que ça s'est encore passé cette année. Surtout que Lens élimine du coup Arsenal de la Ligue des Champions puisque Lens finit deuxième, ils passent pas les barrages derrière, ils finissent à 8 points, mais c'est quand même fort à l'époque pour un voilà, pas forcément le plus grand club de France ou un des grands clubs de France d'éliminer Arsenal de l'époque avec Wenger et tous les grands noms qu'on connaît. Et puis derrière, tu as aussi d'autres victoires bah, en Europe qui font pas tâche hein, puisque voilà Lens réussit à se qualifier régulièrement pour différentes compétitions européennes. Donc on va avoir des victoires face au Milan en 2002, des victoires face au Kaiserslautern 4-1, l'Atlético Madrid 4-2 ou encore le Celta Vigo. Même si Lens ne va pas forcément très loin en Europe, Lens arrive à quand même produire des bonnes sensations. En tout cas, en tant que supporter, on peut être assez fier. Lens gagne la Coupe Intertoto en 2005. Et son meilleur, ouais, en 2005, ce qui est sans doute l'un des meilleurs palmarès. Donc, il y a quand même des belles sensations. Voilà, de 98, on va dire, jusqu'à 2005-2006. Lens, ça reste une bonne équipe de Ligue 1 qui commence à s'installer, à s'imposer et qui commence à faire et qui fait des belles prestations en Europe.
Ouais, on a fait des belles prestations en Europe. En 2002-2003, c'est un peu le parallèle qu'on entend beaucoup cette année, les 20 ans après la dernière participation à Ligue des Champions. On finit troisième d'une poule avec Milan AC, Deportivo La Corogne, donc Deportivo La Corogne qui était une très belle équipe à l'époque, et le Bayern de Munich. Oui, il y a des. On a toujours, c'est un peu ce que je te disais en intro, c'est on jouait un petit peu les places européennes sans non plus jouer les top positions, mais on a toujours réussi à faire bonne figure dans les compétitions européennes, enfin toujours, en tout cas autant que possible, quoi.
Ok. Ensuite, la saison 2005, enfin plutôt 2006-2007 arrive où voilà, la saison ne se passe pas forcément très très bien. En tout cas, la deuxième partie de saison où Lens finit cinquième. Et derrière, c'est un peu, je dirais pas une descente aux enfers, mais c'est le yo-yo, c'est des va-et-vient. C'est-à-dire descente en Ligue 2, remontée en Ligue 1, descente en Ligue 2, et vice-versa jusqu'à peu près en 2014. Comment, en tant que supporter, donc là, tu es déjà un peu plus âgé, tu as aux alentours d'une quinzaine d'années à peu près, quelque chose comme ça, comment, en tant que supporter, bah, tu vis ces moments-là où une année en Ligue 1, une autre année en Ligue 2, et il n'y a pas de continuité?
Ouais, ça a été compliqué ces années-là. Tu vois, c'est les années où on a pris les mauvais virages. Je te le disais en intro, où je pense que Gervais Martel y a un petit peu fait des choix par les sentiments, où ça s'est très mal passé. L'année de la descente en 2007-2008, c'est une année un petit peu catastrophe. On fait venir Giroud. Giroud, le coach emblématique de la JOCR,
Qui reste
on
pas
fait
très
un.
longtemps, il me semble.
Non, il reste 5 journées, il me semble. Il fait les 5 premiers matchs de championnat. Avant ça, il fait un recrutement où on fait un recrutement quand même audacieux avec Bonaventure Kalou, Lucien Aubé à l'époque de Toulouse. On fait venir plusieurs bons joueurs de Ligue 1. la mayonnaise ne prend pas. Avec Giroud, ça se passe pas bien. Du coup, à bout de 5 journées, on se retrouve. Enfin, Giroud, on va se séparer de Giroud. Et puis voilà, on fait un autre mauvais choix en faisant venir Jean-Pierre Papin. Donc une année un petit peu catastrophe qui nous a traîné jusqu'au bout et qui a abouti à ce qui était un petit peu inévitable cette année-là, malgré la qualité de l'effectif, à descendre en Ligue 2. Et puis après, voilà, hein, ça s'enchaîne. On remonte directement l'année d'après avec Jean-Guy Wallem. On remonte l'année d'après en étant premier. Donc on pense que c'était une mauvaise passe, que ça va rester un mauvais épisode du Racing Club de Lens. Et puis, et puis on fait une saison où on fait ventre mou, je crois, en 11e ou 12e. Et puis l'année d'après, on redescend directement en Ligue 2 en finissant 19e. Donc là, après, tout devient compliqué, hein. On peut le voir actuellement avec d'autres clubs emblématiques comme l'AS Saint-Étienne, comme les Girondins de Bordeaux. Quand tu fais une descente, que tu dois te restructurer, voilà, tes budgets fondent à travers les différents postes de dépenses que tu dois revoir. Ton effectif, tes joueurs s'en vont, il reste plus grand monde. Tu dois reconstruire un effectif pour jouer en Ligue 2. Avec l'habitude de jouer en Ligue 1, donc il y a toute cette restructuration à digérer. Et puis voilà quoi, on se retrouve englué en Ligue 2, dans l'enfer de la Ligue 2, où c'est un championnat délicat, un championnat compliqué, un bourbier dans lequel on est assez difficile de s'en sortir, avec beaucoup de matchs serrés, des joueurs très physiques. Et puis on s'est traîné, on est remonté une année en 2014-2015 pour finir dernier et redescendre tout de suite. Et puis voilà, on a traîné ça jusqu'aux années Covid et la saison un petit peu what the fuck 2019-2020 où on accède enfin à la remontée.
Justement, je voulais revenir sur cette période 2013-2014 parce que, au-delà du sportif, bah, il y a le rachat de Mamadov, l'Azerbaïdjanais. Qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là? C'est vrai qu'on est dans une période où il y a quand même plusieurs rachats qui arrivent en Europe, hein. On va avoir le Monaco, le PSG, on est en Angleterre avec Leicester, on a eu des mauvais exemples avec Malaga. Qu'est-ce que tu te dis, toi, en tant que supporter, quand voilà, Mamadov arrive, l'Azerbaïdjanais, est-ce que tu te dis, allez, c'est bon? On est
Ouais,
parti, on va être blindé.
bah blindé, je sais pas, mais on se dit qu'on va pouvoir enfin refaire preuve d'ambition. On nous présente un investisseur azéri qui bénéficie de beaucoup de ressources à travers les énergies. Donc il arrive avec ses sponsors Azerbaïdjan, etc. On se dit que ça va être intéressant de pouvoir entrer dans une nouvelle dynamique. Sauf que bon, ça s'est très vite, c'est très vite transformé en un beau bourbier, en une période un petit peu catastrophique où les fonds annoncés ne sont jamais arrivés, où tout était compliqué avec les banques, et on s'est retrouvé à faire parfois des saisons sans pouvoir recruter, avec uniquement des départs, devoir faire confiance aux jeunes du centre de formation. Et donc, ouais, ça a été une période très compliquée où tu te dis, bon, allez, on sort d'une période compliquée avec Gervais Martel, etc. On a un nouvel investisseur. C'était une période effectivement avec des investisseurs, mais il y avait aussi des investisseurs enfin, des investisseurs qui marchaient très bien un petit peu partout en Europe, comme tu l'as dit. Donc, tu as envie d'y croire. Et puis, bon, ça a pas, le, comment dire, l'éclaircie a été de très courte durée avec le président Mamadov.
Ouais, parce que l'histoire, elle est un peu folle, parce que, au final, enfin, Gervais Martel rentre pas forcément dans les détails, mais il explique qu'il était marié avec la fille je crois, du président d'Azerbaïdjan à l'époque, ou en tout cas l'un des grands dirigeants d'Azerbaïdjan. Il y avait une histoire d'infidélité, donc il lui avait un peu coupé les vivres, enfin. C'est un peu rocambolesque et de se dire que tout ça, bah, ça impacte directement le club, c'était assez fou. Et oui, comme tu dis, il y a ces années difficiles qui arrivent jusqu'à 2016. Et 2016, donc, exit Mamadov, hein, le tribunal de commerce de Paris cède le club à un projet luxembourgeois, donc
Ouais,
c'est
fonds
fonds
d'investissement,
d'investissement, voilà. Donc Joseph Ougourlian, je sais pas,
ouais.
tu prononces ça correctement? On est bon?
Ouais. Ouais, c'est
Ok.
ça.
Ougourlian, qui est donc qui rachète aussi. On sait que l'Atlético Madrid a des parts aussi dans le club à travers Ignacio Aguilo. À ce moment-là, voilà, ma question se répète. On sort de Gervais Martel, on sort de Mamadov, un autre. Et là, c'est un fonds d'investissement, donc on se dit c'est encore plus obscur. Est-ce qu'on se dit bah c'est foutu, ils vont dépouiller le club et on va finir comme Le Mans?
Moi, de mon point de vue, c'était un peu moins le cas parce qu'il, contrairement à Mamadov, il n'est pas arrivé avec des promesses en promettant monts et merveilles, etc. Et il y a un deuxième point qui est non négligeable aussi, c'est qu'on savait que c'était quelqu'un qui connaissait bien le domaine du sport. Il détient Amber Sports, c'est un peu, pour caricaturer, un peu un concurrent de Lagardère Sport, si ça parle aux auditeurs. Et puis effectivement, qui est un fonds d'investissement, mais qui a des parts dans d'autres clubs et qui aussi détient des médias sportifs, etc. Donc un fonds d'investissement qui est piloté par quelqu'un qui connaît bien le football et qui n'arrive pas en promettant. Aujourd'hui, avec le recul, ça se passe très très bien. Mais il n'est pas arrivé en ayant ces promesses-là d'une croissance expéditive, mais plutôt d'une remise à niveau et d'une logique d'investissement plutôt lent, mais sur la durée, quoi. Pour restructurer de manière positive et comme on le fait jusqu'à aujourd'hui, petit à petit, et en structurant au maximum le Racing Club de Lens. Je pense qu'en toute objectivité, c'est quelqu'un qui est un très bon financier et qui construit un petit peu le club dans une logique d'investissement, donc un peu comme une entreprise. Mais c'est quelqu'un qui a l'air très attaché au club, qui est vachement présent au club, au stade, dans les grands événements, qui est présent dans les médias pour être présent et pour représenter le Racing Club de Lens. Donc c'est quelqu'un qui a la tête bien faite, qui est très performant dans ses business et pas que sur le RC Lens, et qui est arrivé avec en reposant des bases saines sur un club qui était parti un petit peu à volo, quoi.
Ok. Et c'est vrai que on peut pas te donner tort pour le coup, puisque maintenant on peut le juger, mais quand il arrive derrière, t'as le recrutement, t'as Eric Sikora qui était l'entraîneur de la réserve, qui passe entraîneur de l'équipe première. D'ailleurs, c'est le recrutement à ce moment-là de Franck Hez pour l'équipe réserve du RC Lens. Exit Sikora, on recrute Montagnier pour faire monter Lens. Il a un objectif, 2 ans pour faire monter Lens. Il n'y arrive pas. Là, on confie les clés du camion à Franck Hez, qui n'est pas forcément l'entraîneur qu'on connaît le plus. Certes, il a entraîné un peu donc à Lorient, donc la réserve de Lorient un peu. Il a pris légèrement l'équipe première, mais ça n'a pas duré longtemps. Ensuite, Il a mené la réserve du RC Lens. Et surtout, il y a le recrutement de l'autre côté de Florent Gisolfi.
Gisolfi.
Donc, au final, ce duo, il a fait un peu des étincelles parce que un an après, Lens monte en Ligue 1 par la force des choses. Tu vis comment les choses à ce moment-là?
Pour revenir un petit peu sur la genèse de la réussite, c'est vrai que quand Philippe Montagnier arrive au club, les supporters sont assez enthousiastes, hein. Ils sortaient quand même de périodes assez intéressantes, notamment à la Real Sociedad où il y avait eu des bonnes performances en Espagne, et puis finalement ça s'est pas très bien passé. On peut voir qu'aujourd'hui ça reste un coach performant en Ligue 1, en tout cas ça l'était jusqu'à son éviction l'été dernier.
Exactement.
Moi je me souviens très bien de l'arrivée de Franck Hez où il était en balance avec d'autres coachs, je crois Valérien Ismaël, un ancien d'ailleurs de la maison. Qui entraînait en Autriche et qui avait de très bonnes performances, notamment dans les différentes Coupes d'Europe. Moi j'étais assez, pour être tout à fait transparent, plutôt hype par la piste Valérien Ismaël plutôt que de reconfier les clés à quelqu'un du club, parce que pour le coup c'était vraiment un inconnu. Et voilà, la seule chose dont on savait, c'est que l'équipe des jeunes, de jeunes travaillait très bien, qu'ils avaient un jeu très intéressant avec le même système qu'on utilise aujourd'hui, un peu avec les pistons, trois défenseurs derrière, et qui proposait un jeu très intéressant. Et puis finalement, lui, il arrive en tant que coach, il joue très peu de matchs parce que le championnat il s'arrête. Et voilà, on accède à la montée à travers l'arrêt du championnat pendant la crise Covid. Et puis on lui confie les clés du camion, ce qui a, je pense, qui lui a permis pendant une période assez longue de pouvoir façonner l'équipe à sa manière. On a fait quelques recrutements judicieux. Effectivement, Gisolfi s'est beaucoup structuré. Alors on parle de lui, mais il y avait beaucoup structuré la cellule de recrutement, la cellule data, la performance au sein du RC Lens. Et c'est vrai qu'il nous a, il y a, voilà, avec Arnaud Pouille, notre DG, Florian Gisolfi et Franck Haise, on avait une colonne vertébrale qui nous a permis de bien nous structurer, d'avoir des recrutements pertinents, en allant chercher des petites pépites, en réussissant à convaincre des joueurs, des très bons potentiels, voire des joueurs assez confirmés. On pourra peut-être en parler, j'imagine, de Seko Fofana. Mais on fait venir aussi des joueurs comme Loïc Badé à l'époque, qui était un prospect très intéressant. Et voilà, on arrive à aller chercher aussi, par ailleurs, d'autres joueurs plus exotiques, comme Franck Oski au championnat d'MLS. On va chercher Medina en Argentine. Et puis finalement, on se retrouve avec une équipe qui, à la fois, sur le terrain, se débrouille très bien, propose un jeu hyper intéressant. Et puis voilà, une structure de club qui fait qu'on arrive à avoir la progression, une progression voilà, mesurée, mais avec un niveau de performance assez exemplaire pour un club qui accède à la montée, quoi.
Ouais, exactement. Bah justement, je voulais revenir sur le mercato, hein, du RC Lens, hein. Comme tu disais, 2020-2021, vous allez chercher Seko Fofana pour à peu près 10 millions d'euros à l'Udinese. Alors, c'est pas le joueur le plus connu, mais on sait qu'il a une petite cote. Il aurait pu jouer en Angleterre ou ailleurs. Il choisit de venir jouer à Lens. Vous recrutez aussi à l'époque Ganago, qui fait aussi sa petite saison, Medina, ou encore à Jonathan Clauss, qui va connaître sa première sélection à l'équipe de France en jouant au RC Lens. Et comme tu le disais, Loïc Badé, vous vous faites prêter un joueur comme Kalimuendo. Bon, c'est un peu moins marché pour Farinès, mais à l'époque, voilà, il était vu comme un
Très bon
très bon
prospect, hein.
futur gardien, exactement. Donc, voilà, tous ces petits coups qui sont intelligents. Et puis tu l'as dit, un hein, Frankowski, c'est quelque chose. Alors, j'ai pas envie de dire que c'était quelque chose qui était nouveau pour le championnat de France, hein, parce que le championnat de France a toujours été connu, voilà, pour avoir ses petits investissements. Mais là, pour le coup, on avait quelque chose où ça a sorti des joueurs, bah, incroyables. On parle de Seko Fofana, bon, qui a fait un certain choix pour sa carrière, mais qui aurait pu jouer dans des très bons clubs en Europe. On parle d'Openda, qui aujourd'hui à Leipzig, qui avait fait une année extraordinaire au RC Lens. Et malgré en fait le départ de votre recruteur, bon, il part après le mercato, eh ben, on peut dire qu'il part l'esprit léger, puisque vous faites sans doute l'une des meilleures saisons depuis quelques années en Ligue 1. Donc je parle de la saison 2022-2023.
Ouais, non, mais c'est ce que je te disais. On a réussi, voilà, avec l'impulsion de l'investisseur Hugo Orléans, à poser les bases saines avec une forte colonne vertébrale entre notre investisseur, notre DG, notre direction sportive, notre coach, un très fort alignement entre ces différentes parties prenantes, qui étaient, je pense, tous convaincus de la réussite du projet. Alors peut-être pas aussi bien que ce qu'on a pu le faire durant ces premières années, mais en tout cas assez convaincus par l'idée de pouvoir avoir cette progression en Ligue 1 et de pouvoir continuer à progresser. Et voilà, je pense que c'est ce qui a fait la réussite du projet, c'est d'aller chercher à la fois des joueurs à fort potentiel en s'appuyant sur la data, comme Jonathan Clauss en Bundesliga 2. Voilà, j'ai donné d'autres exemples. Quand on va chercher Openda en Eredivisie. Et voilà, on arrive à convaincre des joueurs, des bons prospects, des bons joueurs à travers une projection et des ambitions de club en général. Et puis je pense un projet tactique où voilà, on a un coach, un excellent tacticien, je pense on l'entend beaucoup hein, à travers les interviews des joueurs qui rejoignent le club ou qui sont passés par Lens, qui arrivent à convaincre les joueurs. C'est le cas, ça a été le cas avec Seko Fofana où voilà, il s'était fait convaincre du projet lensois, avec Loïc Badé. Mbappé, plus récemment Eli Wahi, il a encore dit quoi. C'est des échanges voilà, très structurés entre les différentes parties prenantes du club et qui fait qu'aujourd'hui on arrive à convaincre des joueurs et avoir cette progression. Après, voilà, on a une progression en termes de performance sportive qui est intéressante, hein. Après, l'ambition des dirigeants, ils ne s'en cachent pas, c'est plutôt d'être dans la première partie de tableau plutôt que jouer les places européennes. Aujourd'hui, on sort d'une saison où on finit deuxième du championnat, tout proche du Paris Saint-Germain. Donc, il y a beaucoup d'attentes pour nous. Cependant, voilà, on continue à se structurer, peut-être un peu plus rapidement avec des nouveaux investisseurs qui sont arrivés récemment. Mais on continue d'avoir cette progression. Je crois que dans les budgets de Ligue 1, on doit être 7e ou 8e de Ligue 1. Donc on progresse, mais sans non plus s'enflammer. Si ce n'est voilà, la petite enveloppe sur un joueur comme Eli Wahi. Mais bon, qui est un petit peu c'est un petit peu incontournable dans ce marché des transferts où les attaquants étaient coûteux cet été. Et avec la Ligue des Champions.
Je vais revenir sur cette saison du coup 2022-2023 qui a été juste incroyable. Alors, Lens sort quand même de deux saisons où ils finissent septième. Vous, à l'entrée des places qualificatives, à chaque fois, ça joue à rien hein, sur les derniers matchs.
Ouais.
Et là, cette saison 2022-2023, là, c'est, on va dire la récompense de toutes ces années où vous finissez deuxième derrière le PSG, hein, pas forcément à beaucoup de points, hein, vous finissez derrière à un point. Bon, forcément, après, en fin de saison, le PSG était déjà champion, ils ont peut-être un peu ralenti, mais quand même, dans les faits, vous finissez à un point derrière le PSG, avec 25 matchs gagnés, 9 nuls, 4 défaites, 68 buts mis, 29 encaissés, ce qui est l'une des meilleures défenses du championnat de France. Comment tu vis cette saison 2022-2023? Déjà, est-ce que quand la saison commence, tu t'attendais à des si belles performances? Parce que la pire position de Lens cette année, c'était sixième à la deuxième journée. Ensuite, ils n'ont pas fait en dessous de quatrième. Donc, au bout d'un moment, est-ce que tu te dis on va être champion? Ou tu te dis bah non, c'est pas possible? Ou vous y croyez, c'est bon, vous dites là, c'est bon, c'est notre moment?
Globalement, toute la première partie de saison, il y a eu des petites enflammades où on était très contents et voilà, on a vraiment une saison fantastique. Enfin, je pense que dans ma vie de supporter du RC, j'espère que j'en vivrai d'autres comme ça, mais je ne sais pas si ça se reproduira à un tel niveau de performance, notamment à domicile où on a perdu quasi aucun match. Mais moi j'ai eu plutôt la dynamique inverse où jusqu'au bout je me suis dit bon, il y a bien un moment où ça va s'atténuer et ce serait tout à fait normal. Et cette période a eu un petit peu lieu après. Il y a eu des petites périodes de moins bien où notamment on a eu des périodes un peu de disette de Luis Openda à la reprise du championnat en début d'année où nos attaquants ont fait preuve de manque de réalisme devant le but, Sotoka et Openda. Je crois qu'il y avait eu des matchs 12 ou 13 matchs sans marquer et Sotoka 10 ou 11. Mais où soit on gagnait, on arrivait à gagner les matchs, soit nos concurrents ne faisaient pas la différence. Et voilà, ce qui m'a fait espérer un petit peu, moi je pense que c'était plutôt les contre-performances du PSG. Voilà, pour moi c'était inatteignable. Mais vers la fin, on s'est dit, il y avait une petite fenêtre où Paris enchaînait quelques contre-performances et on s'est presque rapproché jusqu'au match joué, je crois que c'était au Parc des Princes, hein, le PSG-Lens où Abdoul Samed prend un carton rouge très vite pour une vilaine faute sur Hakimi, me semble. Et voilà, où on perd le match et à la fois. Enfin, de mon côté, en tout cas, tout espoir de gagner le titre, quoi.
Ok.
Mais oui, saison fantastique et voilà, c'était vraiment, c'est des émotions indescriptibles, quoi. Au stade, c'était vraiment extraordinaire de vivre cette saison et cette symbiose entre l'équipe qui était surperformante et les supporters qui étaient gonflés de plus en plus par ces performances, quoi.
Je vais te mettre une petite musique, on va rester dans des émotions fortes. Tu vas me dire quel effet ça t'a fait quand tu l'as entendu. Le Lens de retour en Ligue des Champions. Comment
Ouais,
c'était? Comment
c'était
c'est?
fou. Ah ouais, c'était fou. Sensation indescriptible. Ligue de Ligue des Champions et le Champions à la fin, avant d'enchaîner sur l'hymne de Lensois, quoi. Ouais, je me revoyais quelques années en arrière, le lundi soir, par moins 8 degrés, à me taper un très vilain Lens Chamois Niortais. Tu te dis quel parcours accompli en si peu de temps. Si on m'avait dit c'est un jour, j'aurais pas cru. Et puis voilà, ce match d'anthologie pour amorcer la dynamique contre Arsenal, en tout cas le match à domicile, hein, où voilà, le scénario parfait, le match extraordinaire de l'équipe, un Arsenal qui voilà, pas au top de sa performance, je pense, pour être tout à fait transparent, mais en tout cas un stade survolté. Je pense que j'ai jamais vu le stade, même lorsqu'on a pu battre d'autres clubs de Ligue 1 dans les derbies, ou contre Lille ou contre le PSG, j'ai rarement vu le stade dans un tel état. Et ouais, c'était vraiment complètement fou, quoi.
Et j'ai pas vu à la fin, mais vous avez fait votre petite chanson là, on les a chicotés, ou non, c'est qu'en championnat ça, pas en Ligue des Champions.
Je sais pas s'ils l'ont fait. Moi, je t'avoue que le lendemain, je devais partir pour un déplacement pro. Donc,
Ok.
je suis resté un petit peu jusqu'au coup de sifflet final, mais le temps qu'ils fassent le tour de stade, et après, j'étais parti.
Ouais, vous êtes un peu chambreur quand même, les Lensois, là. Votre petite musique, là, je vous avoue que
Ouais.
là, c'est...
Ouais, après, je
C'est le
suis pas.
jeu.
Ouais, bah après, on l'a toujours fait, donc. Voilà, effectivement, c'est un chant un peu taquin, mais voilà, on l'a toujours fait contre tous nos adversaires. Donc voilà, c'est aussi être respectueux des grandes équipes, de continuer à le faire. Et voilà, je peux comprendre les grandes équipes qui ont du mal avec ce chant, en tout cas les supporters des grandes équipes. Mais voilà, enfin, faut voir un petit peu ça à travers le prisme de l'histoire du chant. Et voilà, ça, c'est un chant qu'on a toujours fait, et que on continue à faire pour exactement les mêmes raisons qu'avant, quoi.
Ouais, et puis bon, c'est le jeu, c'est un peu de chambrage, ça reste que du foot, c'est du sport, hein, si on peut pas
Ouais.
chambrer, on fait de la
Ouais.
pelote basque.
Surtout que je pense pas que ce soit le club le plus énervé en termes de supporterisme.
Non, ça va.
Voilà. C'est plutôt bon
Exactement.
enfant, ouais.
Exactement. Ok, j'ai une dernière question pour toi. Alors, question un peu philosophique, profonde, je sais pas comment tu vas la prendre, mais moi j'aimerais que tu me donnes aujourd'hui, c'est quoi ta vision du supporter? C'est très large, je sais, mais voilà, puisque fais comme tu le sens.
Bah, ma vision du supporter, je trouve ça difficile d'imposer un modèle aux autres supporters. Après, moi, voilà, moi, je suis la vision du supporter, c'est celle que, en tout cas, celle que je défends. C'est voilà, je supporte une équipe depuis toujours, et que voilà, je t'ai cité un peu la citation, mais dans le malheur ou la joie, on est là. C'est de dire voilà, t'es supporter, tu supportes ton équipe. Quand ça va, bah, profite à fond, et si ça va moins bien, bah, continue de venir. Et voilà, faut par exemple, cette année, c'est un petit peu plus compliqué, mais voilà, faut continuer à être derrière son équipe. Et c'est aussi le jeu de pouvoir avoir un petit peu des moments de bas. Et puis voilà, après, moi, je suis pas du tout dans un logique de clivante des supporters entre les différents clubs. Donc je sais pas, voilà, dans ce qu'on a pu voir dans les matchs des Olympico, etc., c'est très loin de ma vision du football. Voilà, moi, je pense qu'il faut vivre derrière ton équipe. Voilà, on est adversaire, on n'est pas rival. Et puis voilà, faut respecter chaque club, et puis profiter de chaque instant, au maximum profiter. Voilà, moi, j'espère faire un pouvoir, j'ai pas pu le faire cette année, mais j'aurais bien aimé faire des déplacements, et puis découvrir un petit peu aussi, s'ouvrir au football à travers le club, et voilà, vivre une belle expérience de football à travers ton équipe, et à travers ce qu'elle te propose, quoi.
Nice. Bah, Corentin, je te remercie d'être venu, je te remercie d'avoir participé à ce premier épisode du Chant des supporters. Merci pour voilà tes réponses, d'avoir trouvé, de m'avoir accordé un peu de temps.
Merci,
N'hésitez
Desti.
pas, bah de rien, bah, n'hésitez pas à nous suivre sur les différents réseaux sociaux, que ce soit Instagram, Twitter. N'hésitez pas à liker cet épisode, à le reposter, le repartager si vous avez aimé. J'espère que ça vous a plu. On continuera avec d'autres clubs. On espère pouvoir faire tous les clubs du championnat de Ligue 1 cette année. En attendant, je vous dis à bientôt pour la prochaine journée de championnat. Et on va se quitter pour une petite dédicace au Lensois sur le champ des Corons. Allez, je vous remercie et je vous dis à la prochaine.
Comme on est la veille, on a sa vie de ses filles aussi.